Radio G 101.5 FM.
Bonjour, il est 13h, vous êtes sur les ondes de Radio G sur le 101.5 FM. Assiette pour 3, producteur, consommateur, environnement, une émission proposée par les AMAP du 49. Pour tout savoir sur les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, visitez notre site amap49.org. Notre thème de ce jour sera éducation et santé. Pour l'évoquer, nous recevons Christian Couvercel, qui au cours de son mandat de maire du Plessis-Gramois a œuvré pour faire évoluer la restauration scolaire sur sa commune. Bonjour Christian.
Bonjour Alain.
Et nous irons également dans la salle de restauration du Plessis-Gramois pour entendre Patrick Lemoine, un des responsables, et quelques jeunes consommateurs. Donc Christian, merci en préambule de nous préciser, de nous éclairer plutôt sur le projet que j'intitulerai « Restauration scolaire » que toi et ton équipe municipale avez mis en œuvre.
Alors donc, pour faire un petit peu d'histoire et d'environnement à cette époque-là, venait de sortir donc le projet de, la loi Grenelle de l'environnement, donc en 2009, et donc nous avions un restaurant scolaire avec la préparation des repas sur place, ce qui est important quand même pour bien appréhender l'approvisionnement du restaurant scolaire. Et donc, la loi Grenelle de l'environnement imposait 20% de produits bio à horizon 2012. Donc, nous nous sommes calés dans ce projet en se disant qu'on essaierait d'aller au maximum de produits bio et certainement d'une façon locale.
D'accord. Donc, votre désir, c'était de faire évoluer une cantine, déjà qui fonctionnait en cuisine sur place, je suppose.
C'est bien ça, oui.
Votre projet, c'était aussi autour des bâtiments, autour d'une amélioration du local pour recevoir les consommateurs.
Si on veut remonter un petit peu plus loin, effectivement, la cuisine se préparait sur place, mais dans un autre local, dans un ancien local. Et donc, c'est dans le mandat 1995-2001 exactement. Et dans ce mandat-là, le besoin se faisait sentir de construire un nouveau restaurant scolaire. Donc, c'est posé la question, est-ce qu'on continue la préparation des repas sur place ou est-ce qu'on externalise? Et donc là, la décision avait déjà été prise dans ce mandat de continuer donc la préparation sur place. Ce que l'on a récupéré plus tard pour mettre en place justement l'approvisionnement en bio.
Beaucoup de cantines scolaires reçoivent les produits déjà prêtes avec des chaînes froides. Est-ce qu'on peut dire que cela est plus simple d'avoir une chaîne froide, ou est-ce que c'est-il plus simple de faire une cuisine sur place?
Le problème de complexité n'est pas le même. La préparation sur place, ça veut dire qu'il faut prendre tout de A à Z, de la fourniture des aliments jusqu'à la préparation et le service en préparation externalisée. Donc le problème est le même pour le service qui organise la préparation des repas. Après, il n'y a qu'une question de transport entre les deux. Le fait que ce soit plus simple en préparation sur place, c'est le nombre de repas, je pense, quand même, qui nécessite moins de choses à mettre dans l'assiette. Et donc, il est plus facile, certainement, d'aller chercher les fournisseurs.
D'accord. La complexité, quand même, c'est que je suppose qu'avec la préparation sur place, vous pouvez multiplier les fournisseurs. Quand vous avez un approvisionnement global du repas avec une entreprise qui fournit tout le repas, vous avez un seul fournisseur.
Oui, alors c'est en termes de choix, oui, effectivement, oui. Là, il y a plus de liberté, mais comme on est un établissement public, une commune est obligée de mettre en concurrence, donc on est obligé aussi d'aller voir différents fournisseurs. Alors que ce soit pour la préparation des repas ou pour acheter des repas. Tout préparé. C'est la même procédure quasiment.
Donc votre choix de créer une restauration sur place avec une préparation des repas sur place, c'était un choix des élus? Est-ce que c'était aussi un choix de la population, des parents d'élèves
ou... Oui, alors les parents étaient habitués à ce que les enfants aient des plats préparés sur place. Donc lorsque la question s'est posée et Et la concertation qu'on a pu avoir a fait que les parents ont aussi choisi la préparation sur place. Bon, ça a renforcé en fait le choix des élus, oui, effectivement.
D'accord. Donc dans votre cahier des charges, il y avait le choix de préparer les repas sur place. Et vous y avez aussi, pour suivre les préconisations du Grenelle de l'environnement, inclus une partie de produits bio en allant largement au-delà des préconisations du Grenelle.
Oui, alors ça c'est un peu décalé dans le temps, hein, puisque ça s'est passé 5-6 ans après. Hein, donc on avait déjà décidé de continuer la préparation des repas sur place. Et donc on avait un équipement performant à un restaurant scolaire qui nous a permis effectivement d'introduire le bio et d'une façon maximale, on va dire, hein, puisque au bout d'un an d'expérience bio, on a réussi à aller à près de 80% d'aliments bio. Alors il faut dire que je suis amapia. Et plusieurs membres du conseil municipal étaient proches des Amapiens ou Amapiens eux-mêmes, qui a fait quand même le lien pour trouver des producteurs et des fournisseurs. Voilà. Puisque comme on est avec une mise en concurrence, on a été obligé de consulter plusieurs organismes producteurs. Mais avec dans le cahier des charges, le maximum de bio pour au moins atteindre le Grenelle de l'environnement et aller plus loin, ce qu'on a réussi largement, puisque au bout d'un an, ce que je disais tout à l'heure, on est arrivé à 80% de produits bio et locaux pour une grosse majorité.
Oui, donc les convictions personnelles, les tiennes d'abord, puis celles de tes collaborateurs, ont favorisé fortement cette organisation d'une cantine scolaire qui fonctionne avec des produits locaux et des produits bio.
Oui, bien sûr, oui, oui, bah oui, oui. Il y avait une forte implication politique au sens large du terme politique, évidemment.
Donc, je suppose que l'équipe qui cuisine, l'équipe qui sert, était aussi sensible à ce genre d'éléments.
Alors, au départ, ils étaient un peu interrogateurs. Hein. Bon, c'est vrai que c'était nouveau pour eux. Hein. Ils ne consommaient pas forcément bio chez eux, hein, donc connaissaient, mais sans plus. Donc là, ils ont vraiment joué le jeu en faisant l'essai, hein, d'abord, hein, puisque en particulier, je pense à la viande, hein, qui était vraiment un aliment très différent, hein, pour eux. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, lorsqu'on a regardé les prix, hein, parce que le prix de la viande bio est forcément plus cher que la viande traditionnelle. Et là, on s'est rendu compte, alors, par l'expérience, hein, que le poids de viande entrante était largement inférieur au poids de viande précédemment acheté.
Oui, c'est-à-dire que tu veux parler de la perte à la cuisson, quoi.
Oui.
En élevage traditionnel, il y a près de 30% du poids qui part.
Exactement,
en
et c'est ce qu'on a quasiment économisé en termes de poids. Donc, on a fait baisser le prix du bio rentrant par cette façon de faire. Mais la cuisine s'est aussi adaptée. Enfin, les cuisiniers se sont aussi adaptés aux produits qui rentraient, qui étaient forcément différents.
D'accord. Vous disiez que vous aviez économisé, donc je suppose que le côté économique était aussi un volet important pour la municipalité qui participe aux frais de la restauration et pour les parents qui achètent des tickets de restauration.
Oui, alors là aussi, c'était un enjeu important. Hein. On ne voulait pas que le prix du repas augmente, augmente trop pour les parents et pour nous, municipalité, donc, qui finançons une partie des repas, hein, on ne voulait pas que les budgets explosent à cause du bio. C'est ce qui s'est passé. Donc, là, je crois de me souvenir qu'on a maintenu le prix du ticket de cantine pour les familles d'une façon identique. Enfin, on a maintenu le prix. Et pour la subvention, ça a augmenté légèrement, mais pas d'une façon quelques pourcents. Mais c'est comme le coût du repas, ce qui rentre est quand même pas très important dans le pourcentage. Ça a fait que, on a pas très augmenté la subvention d'une façon significative.
Donc la subvention municipale a été augmentée faiblement,
oui.
et le
prix du
ticket repas des parents n'a pas été augmenté.
Exactement.
Ça paraît intéressant parce que c'est vrai que je lisais récemment dans un sondage que 87% des Français seraient intéressés pour que leurs enfants reçoivent de l'alimentation biologique dans les cantines scolaires.
Oui,
87%, c'est énorme,
oui,
ça veut dire que le vent va dans ce sens-là actuellement.
Oui,
quoi.
Oui,
ça, c'était une enquête que j'ai lue début 2016, donc vous étiez en avance un peu sur
ça. Oui, parce que c'est de 2009-2010, hein, la mise en place. Hein, donc, mais là aussi, hein, les parents, lorsqu'on leur a posé la question, il n'y a pas eu de contestation, hein, au contraire, hein, on avait le soutien des familles pour passer au bio et pour le maintenir, hein, puisque c'est encore aujourd'hui maintenu de cette façon.
Je crois que. Et pour vous, en termes de moyens, de personnel, est-ce que ça a poser des problèmes du fait que aller chercher des produits locaux, ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un grossiste, ça veut dire qu'il faut aller chercher produit par produit, fournisseur par fournisseur. Donc le fonctionnement pour le gérant de la restauration est un peu différent de celui qui achèterait tous ses produits chez un grossiste.
Alors on est quand même obligé de passer par une filière entre guillemets grossiste, mais spécialisé dans le bio. Hein. Mais comme on voulait des produits locaux, on connaissait les fournisseurs, hein, donc, qui passaient eux forcément par le grossiste, mais puisque nous, collectivités, on a cette obligation. On ne peut pas acheter n'importe quel produit n'importe où. On est obligé d'avoir la traçabilité. Hein, quoi qu'aujourd'hui, c'est quasiment généralisé, mais la traçabilité, c'est important. Et obligatoire pour les collectivités.
Au niveau des villes qui avancent beaucoup sur ce principe, je voulais citer le principe de la ville de Moins-Sartoux, dans les Alpes de Provence, qui est passée dans une cantine 100% bio, et 80% des légumes consommés dans la restauration scolaire sont produits sur le terrain de la commune. Donc cette commune a décidé de mettre des terres maraîchères à disposition pour cultiver pour le bien-être des enfants de la commune. Ils ont embauché un maraîcher bio qui cultive lui-même les légumes et qui fait donc découvrir aux enfants les légumes qui poussent avant qu'ils soient consommés à la cantine. Et comme il le dit lui-même, je vais le citer, il dit « Ils adorent les blettes et les potimarrons parce qu'ils les ont vus pousser dans les champs et qu'ils savent que c'est moi qui les produis. » Donc je ne sais pas si au départ de ta cantine vous aviez cette... vous voulez aller aussi loin dans ce choix, que la cantine soit aussi un mode éducatif, que ce ne soit pas qu'un lieu où on vient remplir des estomacs. Est-ce que vous aviez ça dans votre projet, que la cantine soit aussi un lieu d'éducation, éducation à la nourriture, puisqu'aujourd'hui nous parlons d'éducation et nourriture?
Alors, pas tout à fait au niveau de ce qui vient d'être énoncé, là, par rapport à la culture sur place, enfin, un agriculteur proche de la cantine qui aurait pu montrer, enfin, bon, les enfants ont aussi ce volet maintenant, donc, de jardinage, on va dire, entre guillemets. Par contre, le travail qui a été fait au niveau du restaurant scolaire, et là aussi, faut mettre en avant le personnel qui a voulu jouer le jeu aussi, concernant le gaspillage. Le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire, qui a été pris en compte d'une façon importante, puisque comme on mangeait du bon, on ne voulait pas que le bon soit jeté à la poubelle. Donc là, il y a eu un gros travail qui continue à se faire, y compris avec des enfants de maternelle, qui n'ont pas forcément cette sensibilité à la nourriture, pour que les aliments qui sont servis ne soient pas gaspillés. Donc ça, il y a eu un gros travail, il y a toujours un gros travail de fait sur le côté éducation à l'aliment. Et on parlait du potimarron, c'est vrai que toutes les familles ne mangent pas des potimarrons tout le temps. C'est aussi l'apprentissage des goûts, hein, qui se poursuit au niveau du restaurant scolaire. Alors, je dis poursuit parce que ça devrait se faire aussi dans les familles, mais bon, ça se fait pas toujours, faute de temps certainement.
Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants dans la cantine du Plessis Grammoir et ils me disaient, oui, on est obligé de goûter. Et apparemment, cela ne leur déplaît pas du tout. Donc ça, c'était aussi une volonté de la municipalité, d'avoir quelqu'un qui sache amener cette façon de respecter la nourriture. Et puis aussi, ils me disaient qu'ils étaient obligés de choisir sur les portions, d'avoir une petite portion ou une grosse portion. Donc ça, est-ce que c'est vous qui avez amené ça ou est-ce que c'est le responsable de la cantine, lui, qui avait ça dans son bagage culturel?
Nous, on ne pouvait amener que la volonté. Après, bon, c'est vrai que sur la réalisation, c'est forcément le personnel du restaurant scolaire qui se met en avant et qui a bien voulu jouer le jeu là aussi, hein, puisque sur le... Alors, il y avait l'aspect, donc, comme on souhaitait privilégier les produits locaux, c'était obligatoirement produits de saison, donc variété des produits de saison sur place, on va dire. Hein. Donc, obligation de trouver de nouveaux légumes qu'on ne trouve pas dans le commerce habituel, quoi.
Oui, j'ai vu, donc je parlais aussi des quantités, donc j'ai vu dans le restaurant scolaire des enfants qui revenaient chercher après, du rab, comme on disait à la cantine, mais parce qu'ils avaient pris des petites portions, ils s'apercevaient que l'appétit était plus grand aujourd'hui, et donc ils sont venus rechercher. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous avez voulu amener dans la cantine?
Oui, bien sûr, oui. En sachant que comme on ne voulait pas gaspiller, par principe, il était dit qu'on ne servait pas beaucoup, une petite portion au départ, qu'on pouvait augmenter en revenant chercher du rab, comme on dit.
D'accord.
Et surtout, c'était dans l'objectif de ne pas gaspiller de la nourriture. et puis que l'enfant puisse goûter avant de savoir s'il aime ou s'il aime pas. Donc il y a l'appétit, mais il y a aussi le goût, hein, qui joue, évidemment.
Ce qui était très agréable quand j'ai visité la cantine au moment du repas, c'est que les enfants rentrent pleinement dans ce fonctionnement. Ils acceptent tout à fait de prendre une petite part et puis, ou une grosse part et puis ils mangent ce qu'ils ont pris. Et puis s'ils aiment, ils vont revenir en chercher. Donc ça, c'était assez super. J'étais aussi surpris de l'ambiance. Une ambiance assez sereine dans cette cantine, pas ultra bruyante. Donc je suppose aussi que le responsable y met son grain de sel pour que le repas soit un moment de convivialité, de partage et non pas de super excitation comme on peut le voir parfois.
Alors là aussi, les enfants en début d'année signent une charte. Ils signent, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, ils signent une charte justement de bonne conduite au restaurant scolaire, hein, qui prend en compte donc le bruit, le respect de la nourriture, le respect des copains. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été mises dans cette charte pour que le repas soit un moment convivial et où l'enfant passe un temps calme, on va dire. Qui ressortent pas du restaurant scolaire énervés et avec plein de problèmes qui peuvent se poser après.
Nous allons nous rendre dans la restauration scolaire du Plessis-Gramoire avec Patrick Lemoine, l'un des responsables.
Ça veut dire qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau du circuit d'approvisionnement, vous êtes dans des produits locaux en grande partie.
Oui, pratiquement en totalité.
La totalité des produits.
Que ce soit bio ou pas bio, on essaye de rester dans le département.
D'accord, donc tout ce qui est servi dans la cantine, ce sont des produits qui sont élevés ou cultivés dans le département.
Oui, même tout ce qui est épicerie, on est avec un fournisseur qui est dans le département aussi. On soit sur du bio ou du pas bio, on reste dans du local.
Et donc, c'est vous qui gérez les approvisionnements?
Oui.
Est-ce que ça complexifie d'avoir uniquement des produits locaux? Est-ce que ça ne multiplie pas le nombre de fournisseurs? Est-ce que pour vous, c'est un handicap ou est-ce que c'est plutôt agréable dans le travail?
Ça ça peut être agréable, mais ça devient un handicap quand même au moment où, pour les approvisionnements, on est un petit peu coincé par rapport au nombre de fournisseurs, au nombre de références que chaque fournisseur a. Si on veut vraiment faire du bio, il nous faut presque un fournisseur par gamme de produits. Et on ne peut pas tout regrouper chez le même fournisseur. Sachant que là, sur les légumes, on est sur un producteur bio, enfin un groupement de producteurs bio, qui est basé à Cornay. Donc on est vraiment pas loin. Et après, sur la viande, c'est un peu plus délicat, parce qu'il nous fallait un fournisseur pour le bœuf, pour le porc, etc. Donc au niveau de la facturation, etc., c'est assez complexe. Plus, on a beaucoup de délais d'approvisionnement, donc il faut prévoir généralement entre 15 jours et 3 semaines les commandes à l'avance sur le bio.
Qu'est-ce que ça change pour les cuisiniers, l'équipe de cuisine? Est-ce que les gens ont apprécié ce changement? Est-ce qu'ils y étaient préparés? Est-ce qu'ils cuisinaient déjà ces produits bio chez eux?
On est plus sur une perte, au niveau de le poids restitué après cuisson est un peu plus important que sur un conventionnel, parce que voilà, il y a beaucoup moins de pertes d'eau. Que ce soit pour les légumes, que ce soit c'est essentiellement sur la viande où la viande réduit beaucoup moins à la cuisson, donc on a une perte au lieu d'être de 30 ou 35% sur du conventionnel, on va être à peine 20% sur du bio. On a que de la viande, quoi, on n'a pas d'eau.
Est-ce que ça permet donc d'en tenir compte dans les commandes et de commander moins en quantité?
Tout à fait, oui. On commande moins en quantité, sachant que le surcoût du bio est compensé par la quantité moindre au niveau de la commande, donc on arrive à équilibrer le...
Donc ce qui veut dire que vous arrivez à faire des prix de restauration à peu près au même coût en bio ou en non-bio?
Il y a un petit surcoût quand même au niveau du bio, parce que plus on multiplie le nombre de produits bio, forcément plus le prix augmente, mais la différence, la perte compense en fait l'écart de prix entre le conventionnel et le bio, et après il y a les manières de travailler qui rentrent en jeu aussi, pour limiter la perte au niveau des cuissons, etc. Donc ça nous permet de tenir un budget à peu près cohérent, sans être non plus avec un prix repas exorbitant, et on a une bonne qualité dans l'assiette.
D'accord. Alors, puisque vous avez cuisiné ailleurs dans d'autres services des produits non bio, est-ce que le fait qu'il y ait des produits bio, ça joue sur les restes, sur ce qu'il reste dans la poubelle à la fin? Est-ce qu'il y a... On peut y voir une différence ou pas?
C'est pas significatif. Après, je pense que ça rentre plus ou moins dedans quand même, parce qu'un produit cru, surtout sur les légumes crus, par exemple râpés, type carotte, une carotte bio a quand même beaucoup plus de consistance et de goût qu'une carotte qui a été produite en serre et qui finalement c'est l'assaisonnement qui donne le goût aux légumes. Donc là-dessus, sur le bio, ouais, on arrive à retrouver une différence. Après, sur une viande, je pense que c'est moins significatif.
Comment gérez-vous les déchets et les restes des repas?
Normalement, on essaye de faire un tri au niveau de la sortie des plateaux, où on répartit tout ce qui est recyclage d'un côté, les déchets alimentaires, entre guillemets, d'un autre, et on a un poulailler au niveau de l'école, donc tout ce qui est reste de repas, tout ce qui est reste végétal de repas, c'est de la viande, on ne le met pas, ça part au niveau des poules de l'école.
D'accord. Et il y a une participation des enfants à ça, ou est-ce que c'est uniquement le personnel de la restauration?
Non, normalement, ce sont les enfants qui participent au tri. Quand ils desservent eux-mêmes leur plateau, ils sont censés faire le tri eux-mêmes de leurs déchets.
Donc c'est une façon de les sensibiliser au reste, et puis de voir qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on n'a pas consommé, quoi.
Voilà, tout à fait. Sachant qu'en plus, sur la cantine qu'il y a ici, on est dans une règle, c'est que celui qui en veut moins peut en avoir moins, celui qui en veut plus peut en avoir plus. Par contre, à partir du moment qu'ils ont décidé d'en prendre plus, c'est entre guillemets un contrat qui passe avec nous. J'en prends plus, donc je considère que je suis capable de tout manger.
Donc vous essayez de responsabiliser les enfants par rapport à ce qu'ils mettent dans leur assiette.
Ils sont maîtres de la quantité qu'ils ont sur leur plateau. Par contre, il faut qu'en contrepartie, ils fassent l'effort de respecter. C'est pas le tout de dire, je vais en manger beaucoup, et puis d'en laisser la moitié après, ça n'a pas d'intérêt.
D'accord. Et celui qui n'en a pas pris assez, est-ce qu'il peut revenir?
Tout à fait, il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a toujours, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir, que ce soit pour l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, sachant qu'il faut quand même avoir goûté à tout avant de sortir, sinon c'est dommage de préparer des produits de entre guillemets de cette qualité-là pour ne que l'enfant ne parte sans avoir au moins goûté à tous les plats.
Les enfants sont quoi? Sont au niveau maternel, primaire? Dans l'école, c'est des enfants à niveau deux. École maternelle,
on a
primaire.
École maternelle jusqu'au CM2.
D'accord, donc de 3 à 11.
Oui, 10 ans.
De 3 à 10 ans, d'accord.
Allons maintenant voir du côté des consommateurs.
Bonjour mademoiselle, comment t'appelles-tu?
Andrea.
Comment tu gères la quantité de ce qu'on te donne, de ce que tu manges?
Bah, je mange ce que je peux manger ou je fais la moitié, par exemple.
Tu fais la moitié? Donc des fois, il y a des restes?
Mais quand j'ai très faim, je mange tout.
Et si tu n'as pas eu assez?
Bah, je redemande.
Tu redemandes. Tu as le droit de redemander de tout?
Oui.
Super. Et les restes, sais-tu ce que ça devient ou est-ce... à quoi ça sert?
Les restes, on peut les donner aux poules ou à la poule.
Et si tu as vraiment pris une grosse assiette et que tout d'un coup, tu t'aperçois que tu as eu les yeux plus gros que le ventre, comment ça se passe?
Je demande si je peux passer, puis ça se gaspille.
Ça se gaspille. Et puis, il y a des réflexions qui viennent ou...
Non.
Non, c'est cool.
Oui, c'est cool.
Parfait. Merci, Andrea.
De rien.
Donc, bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous?
Noémie, Mélina et Fiona.
Fiona. Eh bien, bonjour, mademoiselle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe, la cantine, pour vous.
Pour moi, c'est bien. On mange des bonnes... trucs, il y a des bons ingrédients, c'est bon pour la santé, quoi.
Est-ce que vous mangez beaucoup de légumes ici?
C'est souvent les mêmes repas, souvent ils font des repas surprises.
Mais c'est rare des fois parce que, en fait, on mange presque jamais des frites, c'est rare ça.
Et si, au niveau des quantités, est-ce que vous avez le choix de manger un petit peu?
On est obligé de goûter.
Obligé de goûter. Ça te plaît, ça?
Oui. Il y a quelqu'un...
Moi aussi, c'est pareil.
Toi aussi, c'est pareil. Tu aimes bien goûter?
Mais j'aime pas trop des fois parce que c'est vraiment berk-berk.
C'est berk-berk. Et toi, tu aimes?
Ça dépend.
Et si vous prenez une grosse assiette et que tout d'un coup, vous mangez pas tout, comment ça se passe?
C'est tout le temps les mêmes tailleurs de assiettes. Mais après, si on prend une grosse touffe et là, on n'aime pas, on dit j'aime pas trop, je pourrais en prendre moins. Du coup, on est obligé de prendre moins de trucs.
Maintenant, allons retrouver Patrick dans sa cuisine.
Moi, je pense que le contact avec le producteur, c'est quelque chose d'important aussi, de savoir à qui on achète. Et puis, il y a une relation qui s'installe, de confiance si possible. Après, quand on est dans la confiance, c'est vrai qu'il peut y avoir des... C'est intéressant. On sait où on achète, ouais. À qui on achète. Et
le fait que le producteur aussi ait un interlocuteur en face, ça l'oblige aussi à tenir une certaine qualité. Puisque du coup, on l'a en direct. Si on n'en est pas content, du jour au lendemain, c'est au revoir le copain. Ou le concurrent. Lui aussi, le fait de se connaître en direct sans intermédiaire, etc., que ce soit pour nous, c'est intéressant de savoir qui produit les produits qu'on utilise, mais je pense qu'en face, le producteur aussi, de savoir à qui il vend et qu'on se connaisse comme ça, entre guillemets, le pôle l'oblige, mais l'incite à tenir ses engagements et sa qualité au prix de changer de fournisseur pour nous.
Oui, puis je pense aussi que le producteur, il peut avoir plaisir à savoir où va
aussi,
le son travail, où va sa viande.
De savoir que ça finit dans les assiettes des enfants au plessis, grammoire ou ailleurs.
Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la question pour aujourd'hui, Christian. À moins que tu aies autre chose à ajouter.
Non, ce que je souhaite, c'est que, comme il y a 87% des parents qui seraient demandeurs donc de cantines bio, ce que je souhaiterais, c'est que ça se généralise un peu plus. Et si éventuellement des parents ou des organisations de restauration scolaire souhaitent avoir des renseignements, je les renseignerai bien volontiers.
D'accord. Donc pour tout renseignement sur le fonctionnement de cette restauration scolaire, vous pouvez contacter par mail accueil@leplessisgrammoire.fr. À l'attention, évidemment, de Christian Couvercel, qui est toujours un élu de cette charmante commune. Eh bien, l'émission touchant à sa fin, le lundi 19 juin, ce sera la dernière émission pour cette année d'Assiettes pour Trois. Nous espérons vous retrouver à partir du mois de septembre. Mais n'oubliez pas de venir nous écouter le lundi 19 juin. Merci.